Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Mais qui est donc Amir, chargé de représenter la France le 14 mai prochain au concours de l'Eurovision ? Laurent Marsic, et je le remercie d'ailleurs, l'a rencontré, son portrait dans un instant. L'univers des studios Blue Sky, à qui l'on doit la saga L'Âge de Glace ou Rio, fait l'objet d'une exposition très réussie au musée Art Ludique à Paris. Nous la visiterons en avant-première grâce à Stéphane Boutsock et nous vous offrirons des entrées et des catalogues au 3210. Du classique avec Charlotte Latour qui nous présentera le nouvel album du violoncelliste français Christian Pierre Lamarca, dédié aux plus grands airs de la musique sacrée. Et puis nous jetterons un œil bien entendu sur nos programmes télévisés du soir avec Isabelle Morini-Bosque et notamment le carton de la série Section de Recherche sur TF1.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Il s'appelle Amir et c'est lui qui va représenter la France au concours de l'Eurovision le 14 mai prochain à Stockholm en Suède. Ce sera diffusé chez nous sur France 2 avec aux commentaires Marianne James et Stéphane Bern. Laurent Marsic, vous avez rencontré Amir en pleine promotion pour son premier album qui sortira en fait le 29 avril.
Oui, Au cœur de moi, c'est le titre de cet album qui paraîtra chez Warner et dont est issue la chanson J'ai cherché, la chanson de l'Eurovision. Amir, vous ne le connaissez peut-être pas,
si.
Mais si vous avez regardé The Voice en 2014... Amir, qu'on entend derrière moi, faisait partie des finalistes de cette troisième saison face à Kenji Girac, qui lui l'avait emporté. Mais avant d'en arriver là, Amir Haddad, c'est son nom, est un Parisien né il y a 32 ans dans le 12e arrondissement d'un papa tunisien et d'une maman marocaine. À l'âge de 8 ans, ses parents déménagent à Tel Aviv, en Israël. Amir se destine à devenir dentiste. Et c'est là que tout va basculer, déjà dans un télécrochet. Amir.
Juste avant de commencer l'université et de me lancer sur des études de dentisterie, j'ai tenté ma chance parce que j'avais quelques mois de libre et je me suis inscrit au casting de La Nouvelle Star en Israël. Je fais un petit bout de chemin tout en étant parfaitement amateur et je découvre que j'arrive à participer au direct et à faire partie de l'équipe des vrais chanteurs.
Et là, il continue ses études, chante un peu dans des bars le soir, écrit des chansons. Ça dure 6 ans et 6 ans plus tard arrive The Voice, où il finira donc 3e du concours derrière Kenji. La suite, c'est un album, son premier, en pleine préparation. Un soir, une rencontre avec Eduardo Grassi, c'est le nouveau patron de la délégation française pour l'Eurovision. Genre, oh salut toi, qu'est-ce que tu deviens? Bah, je vais lancer mon premier album. Tiens, oui. Je vais te le faire écouter, mon premier single, ça s'appelle J'ai cherché. La suite, c'est Amir qui la raconte.
Et il l'écoute et il a un genre de vision très très claire que ce titre-là pourrait représenter éventuellement la France à l'Eurovision.
Alors Amir va quand même réfléchir hein, parce qu'il a son album à lancer, etc. Il va mettre un peu de temps à accepter et puis l'envie et la fierté vont le remporter.
Alors il faut reconnaître que c'est une chanson qui ressemble, on va dire, au style ou à la facture Eurovision, en tout cas beaucoup plus que l'an dernier. Il y a 39 ans de défaite à effacer depuis la victoire de Marie-Myriam.
Is it possible? Est-ce possible?
En tout cas, il y croit, d'autant que pour lui, la chanson est effectivement celle qu'il fallait.
Et là, j'ai eu une couche de plus de bonheur parce que j'ai vu combien les gens étaient contents qu'enfin la France choisisse un titre de cette fibre-là. Maintenant, il faut savoir assurer. Il faut aussi savoir répondre aux attentes du public et revenir en France fier, revenir en France avec des gens qui sont satisfaits de cette prestation. Il faut savoir défendre le drapeau français dans ce concours où ça va pas être très facile. Je peux te dire que la concurrence est dure.
Ah oui, et attention aux Russes, aux Suédois et à l'Australienne.
L'Australienne, bien sûr.
Bah oui, ils étaient invités l'année dernière, ils sont invités de nouveau cette année. Redoutable, effectivement. Je vous livre la dernière rumeur, Yves. Eurovision, pour les 60 ans du concours cette année, un partenariat a été noué avec le musée ABBA, puisque ça se déroule à Stockholm, en Suède. Il n'en fallait pas plus pour qu'une rumeur se propage. Et s'il revenait au début pour nous chanter ça? C'est une rumeur, hein. De là ce qu'il le fasse,
oui,
ce serait génial.
Mais là du coup, vous nous excitez. On se dit, est-ce possible? Moi, j'ai mis 20 ans pour comprendre le nom de cette chanson.
Oui, je comprends.
Oui, c'est ça. Là-dessus, je suis assez catastrophique, hein, comme sur d'autres dossiers. Merci beaucoup, Laurent Marsic. Écoutez, c'est terrible parce qu'on le dit chaque année. Enfin, non pas chaque année, mais là, on se dit qu'on a peut-être une petite chance d'être bien classé avec cette chanson et avec ce chanteur.
Je pense qu'on peut être dans le top 10.
Voilà, comme il a cheval sur plusieurs communautés, il se dit qu'il pourrait plaire à plusieurs communautés et donc inciter des gens à voter pour lui qui ne sont pas français.
Ah, il est à cheval.
Bah, c'est un peu vite parce que c'est pas les Français qui votent, Isabelle.
Ouais. Faut te remettre dans une petite couche. Hop. La chanson d'Amir qui va donc nous représenter au concours de l'Eurovision. Vous me rappelez la date, Laurent, excusez-moi.
14 mai.
14 mai, hein, parce que je réserve généralement ma soirée. et dans un instant, on va se retrouver pour parler de Touch. On va au musée et on parlera auparavant audience télévisée avec Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Les audiences télévisées d'hier avec vous, Isabelle Morini-Bosque, et nos camarades de Médiamétrie.
Écoutez, elles sont sensiblement comparables à celles de la semaine dernière. Grey's Anatomy est en tête, mais avec nettement moins de 5 millions de téléspectateurs et 19% du public sur TF1. Le vrai succès, en fait, est pour Leibovitz contre Leibovitz sur la 2, qui termine en beauté. 4 100 000 téléspectateurs et 17% du public sur la 2. C'est une formidable série. Il y aura évidemment une suite. Et en troisième position, Des Racines et des Ailes, Le Goût du Nord et du Pas-de-Calais, 2 800 000 téléspectateurs. Et 12% sur la 3, c'est la moyenne basse, on va dire. Mm-hmm. Et alors, côté TNT, j'ajuste mes yeux pour ne pas faire la même erreur qu'hier. Écoutez, moi, de loin, je vois que c'est Énergie 12 avec le film Braqueur qui est en tête. 730 000 téléspectateurs à la louche.
Si vous le dites, c'est que c'est vrai. Hein.
Oui, c'est bien ça.
On vous retrouve dans quelques instants pour notre soirée télé. Maintenant, nous allons vous emmener à la fois au cinéma et au musée. Bonjour Stéphane Buxol.
Bonjour à tous.
Vous avez visité pour nous en avant-première la nouvelle exposition du musée Art Ludique à Paris. Exposition qui ouvre demain, qui est consacrée au studio d'animation Blue Sky, qui a un nom de glace et de pâtisserie. Exactement. Autrement dit, les créateurs des films L'Âge de Glace.
800 œuvres au total, des dessins, des peintures, des sculptures, des maquettes et des courts-métrages qui retracent l'aventure de Blue Sky, devenu en plus de 20 ans un des géants de l'animation. Et on s'aperçoit, c'est très troublant, au fil des salles de ce musée, combien le crayon reste l'instrument primordial de ce genre de film, même si au final, tout finit par passer par des machines. Jean-Jacques Launier, c'est le président du musée Art Ludique, voulait saluer la créativité de cette véritable entreprise du divertissement.
On connaît évidemment L'Âge de Glace, on connaît Rio, mais on ne sait pas qu'ils ont eu l'Oscar du meilleur court-métrage déjà en 98, on ne sait pas qu'ils ont travaillé même sur les effets spéciaux du film Tron ou du film Fight Club ou du film Alien 4 avec Genève. Enfin, voilà, on raconte toute cette histoire et finalement c'est assez merveilleux, surtout pour un public jeune aussi, parce que c'est des contes de fées, parce que c'est des animaux extraordinaires, et je crois que c'est un vrai voyage. Il y a plus de 800 œuvres, donc on ne pouvait pas ne pas rendre hommage à ce studio magique.
Alors, un studio magique qui connaît depuis quelques années un succès impressionnant dans le monde entier.
Robots, Horton, Epic, récemment Snoopy ont bien fonctionné, mais les deux cartons de Blue Sky sont des histoires d'animaux. D'abord, ceux qui nous ramènent au temps de la préhistoire, Manny le mammouth, Diego le tigre à dents de sabre et Sid l'opossum, les héros de l'âge de glace. 1, 2, 3 et 4.
Bon, alors, je croyais qu'on était pressé. Diego recracha immédiatement, on ne sait pas où ça a traîné.
Eh ben dis donc, pendant deux secondes, j'ai vraiment cru que t'allais me dévorer.
Je mange pas n'importe quoi.
J'ai cru que t'allais...
Comment ça?
Près de 25 millions de spectateurs, rien qu'en France, pour cette saga qui doit aussi beaucoup à Scrat. J'adore Scrat. L'écureuil obsédé par l'objet de ses rêves, un gland qu'il aimerait enfin avoir le temps de déguster. Vous vous en doutez, Scrat a évidemment toute sa place dans l'expo, place méritée d'après Jean-Jacques Launier.
On se retrouve tous finalement dans Scrat, toujours à essayer de pousser notre quête, toujours, même si à chaque fois on se la prend sur la figure. Sisyphe, le fameux conte mythologique de ce personnage qui pousse son rocher puis qui retombe sans arrêt. Enfin, depuis l'aube des temps, cette espèce de quête. Et je dis souvent que par exemple, Scrat c'est un peu l'ancêtre aussi du coyote qui court après son bip bip sans arrêt. Enfin, il y a ce côté quête jamais abouti, et je trouve que ça nous ressemble un peu tous finalement dans notre vie. On essaie toujours de courir après les trucs dans tous les sens. Je crois qu'il a un côté français aussi. À titre personnel, parfois il me fait penser à Louis de Funès, enfin, ce côté toujours en train de hurler, etc. Donc j'ai l'impression qu'on a un petit coup de cœur spécialement pour lui en France. Cela dit, il a un succès mondial quand même.
Il a raison, il a un côté Funès.
Oui, exactement.
Alors voilà pour L'Âge de Glace, mais vous nous parliez aussi, Stéphane, de l'autre grand succès du studio Blue Sky.
Rio, deux films déjà dédiés à l'histoire de Blue, perroquet domestique qui va découvrir ses origines et la vie sauvage à l'occasion d'un voyage au Brésil où il tombera amoureux de la jolie perroquette Perla.
Attends, qu'est-ce que tu fais?
Je m'en vais.
Pourquoi? Cette cage est géniale.
Oh, c'est super. Je suis enchaînée au seul oiseau au monde qui ne sait pas voler.
Il y a autre chose que je devrais savoir.
Oui, je sais pas voler, je me cure le bec et quand ça me prend, je fais pipi dans le lavabo.
Au musée Art Ludique, hier, j'ai rencontré Carlos Saldana. C'est le réalisateur, c'est l'inventeur de Rio 1 et 2. Il m'a raconté la genèse de cet autre grand succès, Blue Sky.
Je suis de Rio, je viens de Rio, c'est très proche de mon cœur. C'est un projet très spécial pour moi. Quand on a commencé à faire Rio, quand je pensais de faire un film avec des oiseaux et aussi sur Rio, la couture et la musique, tout comme ça, raconter l'histoire sur les yeux des oiseaux. Et parce que je crois que Rio, c'est une ville spéciale, mais quand on voit la ville sous les yeux des oiseaux, d'en haut, c'est spécial.
Alors, Carlos Saldana, qui m'a confirmé...
Je me permets d'insister, oui. C'est le réalisateur...
De Rio 1 et 2.
De Rio 1 et 2.
C'est une star de l'animation.
Il parle parfaitement français, c'est une vraie star.
Super star de l'animation. Carlos Saldana, qui m'a confirmé pour l'année prochaine l'arrivée d'un nouveau héros, Ferdinand le taureau, qui refuse la corrida et préfère les fleurs. Bah oui, c'est tiré d'un bouquin qui date de 1936. Ça avait déjà été porté à l'écran.
Par Disney.
Par Disney en 38, dans un court-métrage. Et donc, on verra ça l'année prochaine. Avant Ferdinand, les perroquets de Rio, les animaux de l'âge de glace, mais aussi l'Oscar reçu par le studio Blue Sky en 98 pour le court-métrage Bunny. Et puis en bonus, je l'ai vu hier, un petit film en partie inédit des aventures de Scrat, l'écureuil préhistorique. Tout ceci, bien plus encore, ça se passe au musée Art Ludique. Je vous donne l'adresse.
Oui.
34 quai d'Austerlitz à Paris. C'est en face de la gare de Lyon. Vous traversez la Seine, en fait. Mm-hmm. Vous ne pouvez pas le louper, le musée. Il est en forme de nuage vert en métal, sublime. Ça commence donc demain, le 25 mars, et ça dure jusqu'au 18 septembre avec RTL.
Et dans notre grande bonté, nous vous proposons ce matin d'aller découvrir cette formidable exposition en famille. Alors, notre cadeau du jour, deux points, ouvrez les guillemets. Quatre places par gagnant, plus le superbe catalogue, je viens de le feuilleter, de l'art de Blue Sky Studio. Les enfants vont adorer, les parents aussi d'ailleurs. Il suffit de répondre à la question posée par Stéphane.
Quels animaux sont les héros de Rio, l'un des grands cartons du studio Blue Sky? On vient d'en parler, il y a Blue et il y a Perla.
Réponse au 32-10.
Qu'est-ce qu'il dit, Coco?
Mais alors... Coco.
On dirait une chaise qui grince, en fait.
Ouais. Tu veux voir Isabelle Morini-Bosque?
Voilà.
La télévision avec vous, Isabelle Morini-Bosque, à la demande de Coco. On note évidemment sur la 2 ce soir des paroles et des actes consacrés à l'Europe face au terrorisme. Mais difficile de ne pas signaler face à lui l'incroyable succès de Section de Recherche sur TF1.
Surtout au bout de 10 saisons, mais TF1 a parfaitement compris. Là, l'intérêt de distiller les inédits à raison d'un par soirée. Ça permet d'installer une série sur la longueur et d'enraciner les héros dans le cœur du public. La section de recherche, c'est une unité spéciale de la gendarmerie nationale chargée des affaires particulièrement complexes. Et le public a immédiatement adoré, adulé, adopté ce feuilleton où les acteurs se sont succédés et qui, alors que la 11e saison se prépare évidemment, frôle ou dépasse toujours les 7 millions de fidèles, plus les 600 à 800 000 qui se rajoutent après 7 jours de télé de rattrapage. C'est la seule aussi à fonctionner depuis la création en des ateliers d'écriture à l'américaine. Bref, c'est un phénomène. L'épisode du jour est épatant qui commence par la mort d'un gros promoteur immobilier et surprise après l'autopsie.
Je peux te parler la minute?
Oui.
Je te connais tout de suite, ça va pas te plaire. Les empreintes que j'ai prélevées sur le corps de Stanislas Meyer, c'est celle de Lucas.
Mais non, Lucas, il a pas touché le corps sur la scène du crime, il était à côté de toi.
Écoute, j'ai fait les relevés d'empreintes avant que vous arriviez. Donc celle de Lucas était déjà là.
Merde.
Eh oui, merde. J'ai choisi cet extrait parce qu'on y entend la légiste Nadia, jouée par Christelle Labaude. Le personnage, et donc l'actrice, devait disparaître.
Elle est pas mal comme légiste, si je me
souviens bien. Oui, elle est formidable. Elle a une tête de Navajo. Après le Navarro, la Navajo. Alors, le personnage devait disparaître avec les nombreux autres acteurs licenciés lors du passage de la fiction de Bordeaux à Nice en 2013 pour des raisons techniques et climatiques. Mais le public a exigé le maintien de cette quinca qui plaise aux fameuses ménagères responsables d'achat dans une famille. Quant au personnage de Lucas, il est joué par Franck Sémonin, transfuge de Plus belle la vie. Or, il y a un phénomène d'acteur de Plus belle la vie, point de vue popularité télé. Il est donc lui passé de Marseille à Nice. Il le confirme en compagnie de l'acteur principal Xavier Deluc, qui, cette bonne guerre, le taquine.
Bah, j'ai pris 200 km vers l'est, mais c'est toujours la Méditerranée. Ouais. On a la chance d'avoir un pays qui a une belle diversité de contours géographiques, un super cadre. Et puis ma foi, on est bien à Nice, hein. On va y rester. Hein,
ouais, ça a l'air de te plaire, tu vis bien, tu vis bien là-bas.
Tu sais pas, qu'est-ce qu'il y a?
Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Comment,
allez,
quoi,
on les laisse se taquiner. De plus en plus de touristes veulent voir les lieux des intrigues et demandent au syndicat d'initiative l'adresse des villas de rêve.
C'est drôle.
Oui, et les particuliers, que les particuliers louent à la production, très cher d'ailleurs. Il y a même des concours de localisation sur Internet, ça vaut le coup de cette gendarmerie du côté de Nice pour avoir la série.
Alors, la deuxième meilleure audience, c'est Scorpion sur M6.
Oui, une bande. Alors là, les audiences sont nettement inférieures, hein, aux alentours de 3 500 000, mais c'est la deuxième meilleure audience du jeudi. Une bande de surdoués au QI supérieur à 190. Le chef, qui existe vraiment, en a lui 196. Eh bien, ils sont tous regroupés dans la société Scorpion pour aider le gouvernement américain à résoudre des affaires de sécurité nationale. Ce soir, un patron de prison vient les solliciter.
Madame la directrice, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir ?
Ce n'est malheureusement pas une visite de courtoisie.
Un informateur a été assassiné dans ma prison ce matin.
J'imagine que vous avez entendu parler du juge fédéral abattu chez lui à minuit.
Pourquoi ? Il y a un lien ? Oui. Ça fait des années que le gang japonais Etame initie des opérations depuis la prison Harrison. On m'a muté à Harrison pour faire le ménage, mais je ne sais pas à qui faire confiance. Même mon directeur adjoint ne me paraît pas net. Il gagne 48 000 dollars par an et conduit une voiture à 70 000.
Voilà, ça je comprends. Alors, vous me demandez si c'est constamment intéressant ? Oui, c'est constamment intéressant, bah, comme sont intéressantes les conversations de personnes qui ont 196 de QI face à d'autres personnes qui en ont nettement moins, ce qui est mon cas. Voilà.
Pourquoi vous me regardez avec cette...
Mais pas jamais.
Un chouïa condescendant.
Non, je me parle de moi surtout. On note également The Affair sur Canal+. Alors ça, c'est absolument formidable. Sur fond d'intrigue criminelle, on suit l'onde de choc provoquée par la liaison extra-conjugale d'un futur écrivain à succès. C'est brillantissime, c'est multiprivé et divorce ou pas, personne n'est à la noce.
Y a-t-il autre chose que vous voudriez qu'on discute ? Vous, peut-être, Madame Soloway ?
Non, je ne veux rien venant de lui.
Et la moitié de rien, ça ira ? Désolé, c'est de l'humour de médiateur. Tout le monde n'apprécie pas.
Voilà, c'est le troisième épisode, mais vous pouvez parfaitement rejoindre en route comme ces variations autour d'un même thème. Il suffit que vous connaissiez le thème et vous raccrochez vite au peloton.
Voilà pour votre soirée télévisée. Restez avec nous dans un instant. Nous allons parler d'un monsieur qui joue du gros violon qu'on pose par terre. On appelle ça du violoncelle. Et entre les jambes en plus. Ah oui. Bon, c'est pas une définition tout à fait classique, mais il s'agira de musique classique, vous l'avez compris. Allez, à tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Musique classique pour finir l'émission. Bonjour Charlotte Latour.
Bonjour.
Vous êtes venue ce matin avec un album qui prouve que violoncelle et musique sacrée font un très beau mélange.
Le troisième album de Christian-Pierre Lamarca, le violoncelliste aixois, la petite trentaine, a passé 8 ans à préparer cet opus très réussi. L'idée, rassembler 17 airs de musique sacrée des plus grands compositeurs du XVIIe siècle à nos jours et les interpréter au violoncelle. Une transcription de l'Adagio de Barber. Alors pourquoi une transcription ? Eh bien parce qu'à l'origine c'est une pièce écrite pour un orchestre à cordes. Alors si on veut que le violoncelle ressorte, qu'il ait une ligne de chant un petit peu, eh bien il faut adapter, réécrire la partition, ce qui a été fait sur plusieurs œuvres que joue Christian-Pierre Lamarca sur son album.
La vocalité de mon instrument et du violoncelle, c'est indéniable que à travers un projet comme cela, elle s'exprime et elle est d'autant plus visible. C'est aussi ça le but principal de ce projet-là, c'est-à-dire de mettre en valeur l'instrument au mieux et les qualités vocales. Cela dit, il y a quand même certaines pièces qui sont moins vocales que d'autres et sur lesquelles il a vraiment fallu apporter une sorte de virtuosité aussi.
Stabat Mater de Vivaldi. Quand on regarde les compositeurs qui sont joués sur l'album, on se rend compte que de Mozart à Piazzolla, en passant par Saint-Saëns, eh bien, ils ont tous un jour composé de la musique sacrée.
La musique sacrée, ça a toujours été au centre déjà de la vie sociale des compositeurs. À l'époque, c'était quand même la religion était tellement centrale qu'évidemment, de ceci a émané toute la grande musique baroque et classique, même romantique d'ailleurs.
Un grand classique, le Stabat Mater de Pergolèse, que Christian-Pierre joue avec son frère, l'altiste Adrien Lamarca. Travailler en famille, entre amis, lui c'est son truc, il considère que ça apporte sincérité et équilibre à l'album. À la baguette, on retrouve son ami, le flûtiste et chef Alexis Kosenko, avec son ensemble Les Ambassadeurs. Et puis il y a les voix de deux stars du lyrique, des amis aussi, Patricia Petitbon et Philippe Jarouski, dans le Panis Angelicus de César Franck.
Charlotte, nous n'avons pas encore parlé du violoncelle avec lequel joue Christian Pierre.
Oh là là. Un instrument de 1856, le musicien nous le présente.
Il ou elle, je dirais plutôt elle, est très belle. C'est une basse française, en fait, magnifique, de Jean-Baptiste Guillaume. On l'appelle le Stradivarius français. Et ayant joué un Stradivarius juste avant et quelques grands instruments italiens, c'est assez étonnant. Ça a d'autres qualités. C'est très riche, c'est un instrument qui est plus ténor que baryton, avec lequel je découvre beaucoup.
Magnificat de Bach, l'album est empreint de cette sobriété qu'il faut au registre sacré, avec à la fois, vous l'avez entendu d'ailleurs, un beaucoup de couleurs, beaucoup de chaleur. On dit toujours que le violoncelle, c'est l'instrument le plus proche de la voix humaine. Il y a en effet une vibration étonnante à l'écoute de cet album Cantus de Christian-Pierre Lamarca, est paru chez Sony, et vous le retrouvez en concert à Paris lundi prochain, 28 mars, au Théâtre des Mathurins.
Nous sommes décidément très bien quand Charlotte Latour nous parle musique classique, et dans quelques instants vous serez très heureux aussi, puisque nous allons vous faire des cadeaux et que vous pourrez découvrir la formidable exposition dont vous parlait il y a quelques instants Stéphane Boutsock, et gagner le catalogue de l'art du Blue Sky Studio. Il fallait répondre à une question au 32-10. La question était: quel animal sont les héros de Rio, l'un des grands cartons du studio Blue Sky. A tout de suite.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Vous savez qu'on vous propose ce matin d'aller découvrir une formidable exposition en famille. Hein. Le cadeau du jour était le suivant. 4 places par gagnant. Le superbe catalogue de l'art de Blue Sky Studio. Il fallait pour cela répondre à la question de Stéphane. Quel animal, quels animaux, oui, sont les héros de Rio, l'un des grands cartons du studio Blue Sky. Je vais essayer de faire des accords.
Ce sont des perroquets.
Oh, oui.
Et l'expo commence demain, le 25 mars, jusqu'au 18 septembre.
Oui. Coco ?
Ah, il est là.
Tu es toujours avec nous ?
Oui.
T'as passé une bonne matinée sur un... Oui, oui. Et tu serais content de rencontrer Julien Courbet ? Tu sais quoi, j'ai une très bonne surprise pour toi, Coco. Il est là, Julien.
Mais dites-moi,
oui,
c'est Jeff Panacloc.
Je commence une nouvelle carrière.
Pas mal, hein ?
Ah oui, oui. Allez, je vais rendre ma carte de presse.
L'avantage, vous, par rapport à Jeff Panacloc, c'est qu'elle, elle parle vraiment, sa marionnette. Donc, il est obligé d'être drôle, mais vous, vous pouvez lui faire dire n'importe quoi, elle ne fait que des bruitages.
C'est exactement ça, vous avez tout compris de mon sketch.
C'est vraiment... Je ne pensais pas, vous voyez, que ça usait autant de faire une matinale. Je savais que c'était compliqué. Attendez, se lever tous les jours à 3h, être au cœur de l'info comme oui. Ça. Mais là, je vois que quand même c'est compliqué.
Mais tous les jours, ma matinée se termine bien, puisqu'elle bon. Se termine avec vous.
Mais bien sûr. Je vous laisse repartir donc dans votre taxi avec votre marionnette, où oui. Vous pourrez faire un petit sketch au chauffeur.
Je vais me coucher au cinéma, là, avec Stéphane Boutsock.
Vous écoutez RTL.